Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Ça débat déjà dans le studio, 8h46.
Bon, on est d'accord.
Les grands débats du matin avec Françoise de Gouet, Elisabeth Lévy, vos appels 0826-300-300. Alors, trois sujets sur la table. On va commencer, bien sûr, par Éric Zemmour sur le CSA qui veut décompter son temps de parole. Ouais. On parlera des primaires aussi. Et puis, on parlera de cette première journée des procès hier, qui est des procès des attentats du 13 novembre.
Oui, avec notre question du jour que l'on pose sur les réseaux sociaux depuis ce matin à propos de Salah Abdeslam. Qu'est-ce que ça donne,
sur les propos de Salah Abdeslam soient autant relayés, est-ce que vous trouvez que c'est choquant, dangereux ou juste informatif? Pour l'instant, vous dites dangereux, hein, qui dépasse largement à 48%, en disant que c'est dangereux parce que ça fait de la pub pour leur idéologie, nous dit Jean. David nous dit le meilleur moyen d'en faire un héros aux yeux de ceux qui sont prêts à basculer. Jazzpot nous dit tribune pour le terrorisme, le huis clos devrait être prononcé.
Ouais. Bon, on en débattra tout à l'heure, vous pouvez nous appeler 0826-300-300, également commenter hein, l'interview d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui était là, où je l'interrogeais notamment sur la pénurie de main-d'œuvre. Enfin, il y a quand même un gros problème, près d'un million d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et elle a beaucoup insisté aussi sur les salaires dans certains secteurs qui devraient être augmentés. Le temps de parole d'Éric Zemmour doit-il être décompté? Oui, a dit le CSA hier, quand il va intervenir dans les médias. Quelle est votre réaction, votre sentiment?
Est-ce que le temps de parole d'Emmanuel Macron, qui après tout est tout aussi candidat qu'Éric Zemmour, c'est-à-dire il ne s'est pas déclaré, mais est-ce que le temps de parole d'Emmanuel Macron est décompté comme candidat? Je ne crois pas.
Non, il est déclaré il est décompté comme président de la République.
Oui, pas comme candidat. Donc, si vous voulez, je suis sûr qu'on peut trouver plein d'exemples.
Anne Hidalgo,
pas décompté.
Le temps de parole d'Anne Hidalgo est quand même décompté.
Pas comme candidate.
En fait, il faut bien préciser les choses. C'est-à-dire qu'il y a deux types de décompte. Il y aura un décompte sur la campagne électorale quand tous seront déclarés. Et là, ce sera dans le cadre, en fait, de la campagne. Mmh. Ensuite, il y a la pluralité, en fait, le pluralisme dans les médias. Où là, l'ensemble, en fait, des gens qui font de la politique sont décomptés et il faut...
Pourquoi on décompte pas Françoise de Gaulle?
Elisabeth ou Alexandre de Vecchio? Non mais sérieux.
Ce sont les élus. Non mais bien sûr, mais je vous dis les choses. Ce sont normalement les élus politiques qui sont
pourquoi pour l'instant, à ce jour, même s'il est probable qu'il sera candidat, Éric Zemmour est un commentateur engagé comme Françoise, comme moi, comme beaucoup d'autres gens
Les éditorialistes du Figaro.
Je trouve ça tout à fait étrange que le CSA ne s'intéresse qu'à Éric Zemmour. Et pour tout vous dire, je commence à en avoir marre du CSA et de sa propension à s'immiscer, si vous voulez, bien au-delà de ses prérogatives, à mon avis, dans le fonctionnement des médias. Parce que c'est toujours dans le même sens. Hein. Je ne me rappelle pas avoir entendu le CSA brailler contre l'absence de pluralisme à France Inter. Je ne me rappelle pas...
Si, il y a eu parfois des avertissements. Il faut être honnête. Moi, je dis les choses...
Il y a peut-être eu parfois des avertissements. Ils sont beaucoup plus obsédés par CNews, si vous voulez. Ça fait plusieurs... Il y a un moment, le gendarme du pluralisme, qu'eux-mêmes commencent à être pluralistes.
Soyons honnêtes, c'est vrai que vous, par exemple, vous êtes des commentateurs et éditorialistes, hein, bien sûr politiques. Bon, heureusement, je pense qu'on ne commence pas à vous décompter, parce que sinon, évidemment, ce serait des calculs de
politiquaires. Et pour qui ?
Mais voilà, et pour qui ? En revanche, lui, Zemmour, ce qui va changer, c'est que visiblement, il veut s'engager politique en tant que tel. Françoise de Gouet.
Vous savez, moi j'adore cette expression. Ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Oui. C'est-à-dire que pour le moment, Éric Zemmour n'est pas candidat. Pour le moment, Éric Zemmour est un polémiste, éditorialiste,
engagé,
qui a une idée conservatrice qui ne me convient absolument pas. J'adorerais, sur le plan émotionnel, qu'on coupe le sifflet à Éric Zemmour.
Ah bon ?
Mais sur le plan de la liberté, je ne l'accepte pas. Ouais. C'est-à-dire que je n'aime pas les théories d'Éric Zemmour, mais il est impossible, sur le plan de la liberté et de la démocratie, qu'Éric Zemmour ne puisse pas s'exprimer.
Mais il peut s'exprimer.
Non, mais c'est. Mais
il va pouvoir s'exprimer quand même.
Mais vous comprenez bien que s'il est décompté, poser un vrai problème.
Au nom de quoi on veut le décompter? Je ne suis pas une amie d'Éric Zemmour, je combattrai Éric Zemmour, je n'aime pas ses idées rances, mais au nom de quoi, doit-on le décompter? Oui. Voilà. Il n'y a aucune raison.
Non, mais il faut préciser les choses. Moi, j'aime bien toujours essayer de préciser les choses et d'être neutre. Décompter, ça ne veut pas dire interdire. Ça veut dire que vous pouvez le faire, mais en revanche, ce sera décompté.
Vous comprenez bien, Patrick, pardon François, vous comprenez bien que pour des médias aujourd'hui, et particulièrement pour CNews, puisque tant qu'il n'est pas candidat,
alors,
il est à CNews,
le problème est pour CNews.
Vous comprenez bien que ça pose un problème. Éric Zemmour est un éditorialiste de cette chaîne. Il est tout à fait engagé, on le sait bien. Son discours, d'ailleurs, je veux dire, il défend les mêmes idées que celles qu'il défendra s'il est candidat, mais vous comprenez bien que c'est très pénalisant pour CNews.
Pour la chaîne. Or,
la semaine dernière, le CSA s'est déjà permis de brailler parce que il y avait une émission, d'ailleurs, je crois que j'y étais, sur la tribune des généraux. Bah oui, on caste pas, on téléphone pas aux gens avant, leur disant qu'est-ce que vous pensez. Bah, il se trouve que ce jour-là, je pense que tout le monde était d'accord et l'approuvait. Et là, le CSA, a fait, comme d'habitude, ses recommandations. Enfin, c'est blâme ou je ne sais pas quoi, mais je suis navrée. Vous dites qu'il y a eu des choses sur France Inter. Moi, avant que vous arriviez à 7 heures, j'écoute un peu France Inter pour m'informer, et puis parce que je paye, donc j'écoute. Eh bien, je suis navrée. Le pluralisme à France Inter, c'est pas très souvent.
Mais ça, c'est
oui, mais non, mais il faut quand même, d'un côté, moi, ça ne les dérange pas qu'à France Inter, il y a un ronronnement de gauche tout le temps, mais à CNews, ça les dérange.
Non, mais c'est différent. Je comprends le cas de. Le problème pour le CSA, voilà, sur cet objet non identifié et trop identifié qu'est Éric Zemmour.
C'est vrai.
Je comprends leur point de vue. Là où je ne le comprends pas, je pense qu'ils vont trop vite en besogne. Je pense que ce genre de décision doit se prendre à partir du moment où vous avez urgent AFP, Éric Zemmour, candidat à la présidentielle. Là, vous dites que ça pénalise...
C'est parce qu'il y a son livre qui sort la semaine
alors,
prochaine.
Tous
les journalistes politiques font des livres,
tous les politiques font
La faucuterie générale qui consiste à parler de l'objectivité du journalisme. La France, le journalisme français est engagé depuis la Révolution. Pardonnez-moi, quand vous achetez le Figaro, vous savez ce que vous allez lire. Quand vous achetez Libé, vous savez ce que vous allez lire. Ouais. Cette faucherie sur la supposée objectivité des journalistes, a fortiori des éditorialistes, ça n'existe pas. Moi, je pense que, là, je vais plus loin, je pense que c'est pénalisant pour CNews, mais c'est aussi pénalisant pour Éric Zemmour, parce que vous savez très bien, vous avez été patron de radio, de télé, vous savez très bien comment vous faites vos comptes d'apothicaire, et quand on se retrouve coincé 15 jours avant le scrutin
en disant,
il a trop parlé, on est obligé d'arrêter de lui couper le sifflet.
Pour moi, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'à partir, enfin, en tout cas pour notre chaîne, je comprends la problématique pour CNews, parce que
c'est
c'était
un problème
vrai
pour lui,
mais pour nous, pour l'invité, il n'y a aucun problème, parce qu'on l'invite, et on va l'inviter, puisqu'il sera dans quelques jours sur Sud Radio, et donc on comptabilisera du temps, mais en revanche, ce temps, vous savez, il évolue. C'est-à-dire que tous les trimestres, en fait, on remet les comptes à zéro. Donc, il n'y aura pas de problème.
Pour la présidentielle. Moi, j'ai connu l'époque en 2007. Le dernier meeting, par exemple, le meeting de Charletti de Ségolène Royal, on n'a pu le couvrir qu'à minima. En termes de.
Quel dommage, c'est quand elle a fait.
je le regrette.
Parce qu'on
était sur des temps de parole.
Après,
donc, c'est très bien que c'est un problème pour
Zemmour. Après, ce qui est difficile, parce que normalement, vous vous appuyez aussi sur certains critères pour décider du pourcentage que vous accordez à tel ou tel parti.
Vous le décomptez pour qui
ce sera pour son parti, s'il a son parti, s'il se lance avec son parti Éric Zemmour.
Oui, mais c'est proportionnel.
Mais en revanche, proportionnel à quoi, justement. C'est ça qui est difficile, parce qu'il n'a pas de...
On avait le même problème avec
même. Vous allez décompter maintenant son temps de parole pour un parti qui n'existe pas.
Non, mais on a eu le problème...
Aujourd'hui, ce parti n'existe pas.
On a eu le problème avec Macron en 2017, je vous signale. On ne savait pas comment le décompter.
À partir du moment que François a raison, à partir le jour où il est candidat, c'est tout à fait légitime qu'il soit décompté. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais c'est tout à fait légitime. Mais aujourd'hui, en gros, si je vous suis, il faudrait décompter le temps de parole d'Éric Zemmour pour un parti qui n'existe pas encore.
Non, mais il sera dans les divers droites. Il sera dans les divers droites. C'est là où il va être comptabilisé.
Il n'est
quoi.
Pas normal.
Ils vont être
Patrick.
Contents, les gens de droite.
Oui, parce que ça leur prend du temps de parole en moins.
Non, mais il n'est pas normal que le CSA intervienne comme ça. Je pense que c'est malsain sur le plan démocratique. Ouais. Laissons aller jusqu'au bout ces candidatures.
Retire Rance et on est d'accord sur tout.
Je pense qu'Éric Zemmour est Rance, mais bon, on ne va pas être d'accord sur Éric Zemmour.
Bon,
je pense que c'est aussi, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est quand même le travail aussi aussi du CSA, on lui demande de faire de la régulation. Alors, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais en revanche, bon, il doit intervenir.
Mais personnellement, je serais pour la dissolution du CSA.
Ah, bah non, mais alors, vous.
Arrête, Elisabeth, c'est un crime de lèse-majesté. Je trouve que le CSA n'a aucune légitimité. Ces gens-là ne sont pas élus. Ils interviennent. C'est une intervention politique, en réalité, dans le débat public. Donc, je répète.
Qu'ils interviennent pas
je
assez,
suis
moi.
Pour la dissolution du CSA.
Bah oui, voilà. Mais c'est un organisme en fait de contrôle. Il faut des organismes d'État de contrôle.
Excusez-moi, j'en ai marre de ces autorités administratives indépendantes, d'accord, qui ne dépendent que d'elles-mêmes. Et moi,
mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que parfois, vous êtes pour l'indépendance des autorités. Là, ça ne vous dérange pas. Non, Elisabeth, soyez cohérente avec vous. Vous n'aimez pas le CSA. Voilà. Bon. Disons-le clairement.
Je trouve que le CSA n'est pas légitime.
Si le CSA sanctionnait France Inter tous les jours, vous adoreriez le CSA.
Mais précisément, ils ne le font pas.
Mais si, parce que maintenant, ils ont des chroniqueurs, en fait, diversifiés, d'opinions diversifiées. Bon, allez, dans un instant.
Dans un instant, vos appels au 0826-300-300 avec David qui est déjà à l'antenne. Pardon, David, on revient dans un instant. À tout de suite. Il est 8h56.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on reviendra sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 avec notre invité. Tariq Yildiz est là, sociologue, auteur de La fatigue d'être soi-même prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamisme aux éditions du Puy du Roule.
Oui. Et puis, nous y reviendrons parce qu'il y a évidemment les déclarations en forme de provocation de Salah Abdeslam dès les premières minutes de ce procès. Hein. Et on vous pose cette question sur les réseaux sociaux, Cécile. À partir justement de ces déclarations où il a dit je suis le combattant de l'État islamique.
Le fait qu'elle soit pas largement relayée par les médias, est-ce que vous trouvez ça dangereux, choquant ou juste informatif? Pour l'instant, vous êtes à plus de 48%. Vous trouvez ça assez dangereux puisqu'effectivement, on parle beaucoup de cette idéologie et que finalement, ça, c'est sous forme de provocation. Donc, vous êtes assez en colère.
Oui, bien sûr. Donc, continuez et de voter, d'appeler 0826-300-300. Et on va en débattre avec Tariq Yildiz et puis toujours Elisabeth Lévy, Françoise de Goy. Alors, on a parlé beaucoup d'Éric Zemmour tout à l'heure. Oui. On parlera peut-être de la primaire parce que Françoise de Goy, c'était ode à la primaire ce matin.
Oui, j'ai trouvé un sujet de désaccord.
Oui, vous nous direz effectivement ce que vous en pensez. Et puis, il y a Elisabeth Borne aussi qui a parlé tout à l'heure, la ministre en fait, du Travail et de l'Emploi, parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait, sur la table, notamment cette pénurie en fait, de main-d'œuvre. Des employeurs qui n'arrivent pas à trouver de personnes dans l'hôtellerie, dans le BTP, dans l'industrie. Près d'un million d'emplois, c'est ce qu'a dit en fait quand même Pôle emploi. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans le même temps, il y a entre 3 et 6 millions en fait de personnes en situation de chômage. Quoi. Donc il y a une inadéquation en fait absolument incroyable
entre l'offre et la demande.
C'est David qui est avec nous.
Oui, David 0826 300 300. Bonjour David.
Bonjour David.
Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Oui.
Il y a toujours Elisabeth Lévy.
Elle est toujours là. Françoise de Goy aussi.
Elisabeth, un petit clin d'œil pour Elisabeth, que je suis chez Pascal Pro, qui me fait beaucoup rire.
Bonjour. Merci. C'est un beau compliment.
C'est pas sa fonction première.
Si. Alors là, vous avez tort, Cécile. On ne peut pas me faire plus beau compliment. Faire rire ses contemporains, c'est bien.
Elle est un petit peu radicale, mais en ce moment, c'est tout à fait légitime. Oui. Radicale, mais elle dit beaucoup de vérité.
Voilà. Bon. Mais sur le contrat d'Elisabeth Lévy, comme Françoise de Goy, j'ai rajouté humoriste. Hein, donc voilà. Bon. Toutes les deux. Hein. Toutes les deux. David, oui. Alors revenons plus sérieusement en fait, au débat.
Oui. Je voudrais un petit peu rebondir un petit peu en arrière. Je suis désolé sur la ministre du Travail qui explique que des chiffres. Alors les chiffres, on veut bien dire ce qu'on veut sur les chiffres, mais. Voilà, chacun a une interprétation différente des chiffres. Les chiffres, ils viennent d'où, en plus? Ce sont des instituts de statistiques, qui sont mis en place souvent par l'État, et ils prennent des chiffres qui viennent de leur propre maison. Bon, donc, le chiffre sur le chômage, sur la réalité de ce qui se passe actuellement, nous, on est en plein dedans, on a les pieds, on est en pleine activité, à 100% activité.
Parce que vous êtes dans quoi, David?
Alors moi, je fabrique, on essaye, parce que vous savez que les TPE, on n'a aucun représentant. On essaye de fabriquer des machines depuis 3 ans, des machines françaises face à l'hégémonie chinoise sur des trottinettes électriques. Vous avez vu le bond des trottinettes électriques, le marché, l'exponentiel. Aujourd'hui, c'est des petites machines quand même qui sont très peu encombrantes, qui ont un impact au carbone qui est minime. Et qui est l'avenir, qu'on peut placer très rapidement dans une voiture, qui va dépasser le vélo. On a fait des études sur ça. Aujourd'hui, on peut générer 1 milliard d'euros d'économies avec ça, si on construit, c'est un nouveau métier. Hein. Mmh. Si on, nos jeunes sont intéressés par ce métier connecté qu'on appelle d'aujourd'hui. Ouais, ouais. C'est un mi-chemin entre le vélo et les, et donc,
mais vous avez besoin de main-d'œuvre, d'employés, de salariés, et vous en trouvez ou vous avez du mal à en trouver alors, justement,
alors, à chaque fois qu'on essaye de se rapprocher d'un politicien, ils sont tous. Bon, on n'a personne pour nous aider, il faut monter des dossiers pour tout ça, il faut ouvrir un nouveau métier, une nouvelle formation, former des formateurs, ouvrir des usines. Ouais. On a réussi à signer à Toulouse, hein, avec trois usines, hein, je vais les citer, Realtek, Tesla, qui ont perdu des contrats avec Airbus. Il y a eu un mal pour un bien pour nous, pour les petites entreprises comme la nôtre qui avaient besoin de pièces, et pour l'instant, ils faisaient que des pièces Airbus. Aujourd'hui, on peut faire de la trottinette jusqu'à 90%, on monte. Mais personne nous aide. On n'a même pas de politiciens à côté qui viennent nous monter des dossiers ou des personnes, de fonctionnaires qui nous appellent. Vraiment, les TPE, ils sont laissés à l'abandon. Aucun représentant, pas d'aide. Moi, aujourd'hui, j'ai un code APE. Vous savez, l'Institut l'INSEE, que tout le monde en parle. Mmh. Ils se trompent de code APE au moment où vous demandez les aides. Vous n'avez pas d'aide, puisque vous se trompez de code APE. Un an pour changer le code APE.
David, si je vous écoutais, c'était le sens d'ailleurs de mes questions tout à l'heure à la ministre en fait, du Travail. Est-ce qu'il y a une adaptation aussi des services en fait, de l'État? Qu'est-ce qu'il doit faire face à ce problème? C'est-à-dire qu'on a des gens sans emploi dans beaucoup de secteurs, et à côté de ça, il y a énormément de gisements d'emploi, et des employeurs comme vous, on en a tout le temps, tous les jours, qui nous appellent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé un nouveau rendez-vous à 10h moins le quart chaque jour, qui s'appelle la France à vos côtés, qui n'arrivait pas à trouver en fait de gens. Alors des gens qui sont certes qualifiés ou pas forcément qualifiés. Donc où est le problème? Quand vous avez vous adressez en fait à des gens qui sont au chômage, vous, David?
Alors le problème, c'est moi j'ai aujourd'hui j'ai eu quatre stagiaires pour des bac pro, hein, troisième année. Hein.
Ouais.
Bon, forcément, ce qu'ils apprennent à l'école, c'est pas forcément ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il y a un gros vivier de demandes d'emploi, mais il y a tellement de, vous savez qu'il y a des points de formation qu'on accumule. Mmh. Et les formations, ça vient de partout. On peut faire des formations. Vous pouvez vivre pendant 20 ans sur des formations en France, hein, et être payé que par des formations et ne jamais travailler. Mmh. C'est un système qui est complètement, c'est un bordel complet, total. Pourquoi aujourd'hui, de toute façon, on peut rien demander? Ils sont tous axés sur la crise sanitaire. Vous allez demander quoi? C'est un bordel de partout. C'est très dolosif. Hein. Vous connaissez, en droit des contrats, on apprend à la fac le Doyle. Ouais. Aujourd'hui, on vit un Doyle. C'est faire croire vrai ce qui est faux ce qui est vrai.
Ouais.
Où est la vérité? On entend de tous les sujets, il n'y a aucune vérité. Chacun a sa vérité, mais la vérité,
n'est pas. C'est vrai, David. Merci de votre témoignage. Alors, il y a aussi dans certains secteurs aussi des efforts qui doivent être faits pour attirer avec des salaires. Mais c'est vrai que dans le secteur de l'hôtellerie, c'est assez incroyable puisque aujourd'hui beaucoup des employeurs, la restauration, l'hôtellerie-restauration, tout ce secteur, beaucoup des gens ne veulent pas travailler ni le soir ni le week-end. Mmh. Or, évidemment, les repas, que ce soit les déjeuners ou les dîners, c'est plutôt c'est plutôt le week-end. Donc c'est un gros problème. Merci en fait de votre témoignage en tout cas, David. On va reprendre le débat dans un instant. On va s'intéresser donc juste après une courte pause première journée de procès des attentats du 13 novembre. Allez, on vous retrouve dans un instant. N'hésitez pas, 0826 300 300.
Il est 9h12, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h16, les grands débats du matin, ça continue, toujours avec Elisabeth Lévy, Françoise Degois. On va revenir sur la stratégie et puis les phrases de Salah Abdeslam avec notre invité ce matin, Tariq Yildiz, sociologue, autour de la fatigue d'être prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamique aux éditions du Puy du Roule.
Oui, absolument. Et avant d'en débattre avec vous, Tariq Yildiz, et pour que tout le monde et bien ces petites phrases en tête factuelles avec vous, Félix Mathieu, sur ce qui a été dit donc hier. Hein.
Oui, alors que la cour lui demandait de décliner son identité, Abdeslam a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de divinité à part Allah et Mohamed est son messager ». Interrogé sur son métier, il a répondu aussi avoir, je cite toujours, « délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique ». Les enquêteurs étaient habitués à ses silences depuis son arrestation. Pourtant, cette fois, l'accusé de 31 ans n'a pas hésité à prendre la parole même quand il n'y était pas invité.
Oui. Et puis, il y en a un des co-accusés qui a fait un malaise et il s'est lancé dans une vindicte contre la justice française.
Oui, en voyant un de ses co-accusés faire ce malaise, debout, il a enlevé son masque, pointé son doigt vers les juges en criant notamment que les accusés étaient, je cite, « traités comme des chiens ». De son côté, le président de la cour, Jean-Louis Périès, imperturbable, lui a rétorqué à un autre moment « Ici, on n'est pas dans un tribunal ecclésiastique, on est dans un tribunal démocratique ». En tout cas, aujourd'hui, la cour d'assises spéciale doit poursuivre, comme hier, l'appel des parties civiles. Les témoignages de responsabilité rescapés de proches des victimes débuteront dans 2 semaines et demie, le 28 septembre.
Oui, merci pour ce factuel, Félix Mathieu. Oui. Tariq Yaldiz, que cherche à faire et à prouver Salah Abdeslam à travers ces déclarations ?
Oui. Lui, on ne parle pas le même langage avec lui. Il voulait dire par là qu'il ne reconnaît pas la justice française, qu'il ne reconnaît pas la justice ici-bas, et que pour lui, il n'y a qu'une seule justice qui compte, c'est la justice divine. Et par ces mots-là, en fait, il ne fait que confirmer cet élément-là, qui est finalement très cohérent avec l'ensemble du parcours, et puis ce qu'il a déclaré jusque-là. Alors c'est vrai que dans les interrogatoires, il a privilégié le silence, mais là, il y a une tribune y compris médiatique, et puis il s'adresse aussi à ceux qui considèrent comme étant ses alliés et ses co-religionnaires.
Ouais, et donc c'est une volonté délibérée, quoi, probablement, d'utiliser cette tribune, quoi, non ?
Bien sûr, mais finalement, rien d'étonnant. C'est-à-dire qu'il il est dans son rôle de dire, il y a une seule justice, c'est la justice divine, tout le reste, j'en ai rien à faire, et puis vous n'êtes pas légitime pour me juger. Ouais. Et donc, quand on lui a demandé, en réalité, de commencer à parler, il a fait le rapprochement avec l'idée du témoignage et shahada en arabe, pour dire, eh bien moi, je témoigne qu'il n'y a que Dieu, et puis que vous n'êtes pas légitime, en réalité. Ouais.
Alors, les co-accusés n'ont pas eu le même comportement, on verra pendant ce procès. Qu'est-ce que ça suscite, Françoise de Goy et Elisabeth Lévy ?
D'abord, le sang glacé et puis l'indécence, mais parce que ça, c'est avec notre regard. Quand Salah Abdeslam, auteur de massacres en masse, ne fait aucun signe de repentance, mais ça, on le sait, c'est pas propre au terrorisme islamiste. Moi, j'ai couvert les procès des terroristes basques. Vous avez Bader Meinhof également, il n'y a pas de repentance. On va jusqu'au bout de l'idéologie.
Ça dépend lesquels.
Il y a eu quelques repentances chez des brigadistes rouges, mais les auteurs d'attentats, les assassins, les sanguinaires ne se repentent jamais, que ce soit Pérez au Pays Basque ou que ce soit Bader Meinhof. Je voulais dire juste que moi j'ai été très heurté, bouleversé, car j'étais dans l'idée que Abdeslam garderait le silence, en tout cas qu'il ferait peut-être une phrase, mais qu'il ne transformerait pas cela en tribune politique, en tribune militante. Je suis en train de me demander, mais alors ai-je tort, je trouvais que ce procès était une chose formidable, je suis en train de me demander si on n'a pas eu tort finalement de tellement médiatiser et d'offrir...
Médiatiser, vous dites, c'est ça ?
Oui, et d'offrir finalement sur un plateau d'argent une telle tribune médiatique à quelqu'un qui, à mon avis, ne va pas s'arrêter.
Oui. Non, Elisabeth Lévy est un équilibre.
Moi, je suis assez fasciné à la fois par l'indignation et par l'étonnement. Ouais. Il était évident, si vous voulez, un procès... Alors moi, je crois qu'on parle trop de ce procès en général, ça va durer 9 mois, et comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas sûr que ce sera aussi historique que ce qu'on nous explique.
Non, le terme est peut-être effectivement trop fort.
Même, je trouve qu'effectivement, peut-être ce procès, les attentats étaient un événement historique, le procès, en revanche, je suis comme Tariq Yaldiz, dont je salue les travaux par ailleurs, je suis comme lui, je ne suis pas du tout étonné, et je trouve que Abdeslam est conforme à son rôle, mais surtout, je suis pas du tout d'accord avec tous les gens qui disent, attention, c'est dangereux, en fait, je veux dire, pour la plupart des gens, comme vous et moi, eh bien, ça va faire l'effet de repoussoir s'il y en avait besoin, et c'est exactement le même débat, ou en tous les cas, c'est un débat proche de celui qu'on a eu au moment de la publication de Mein Kampf. Je ne crois pas que lire Mein Kampf rende nazi n'importe qui. Je crois que les gens qui vont être séduits par les propos d'Abdeslam, ou les gens qui vont l'admirer, sont des gens qui partageaient déjà son idéologie. Je vous invite d'ailleurs à lire le livre de Morgan Sportes, qui parle d'un petit réseau djihadiste, si on peut dire. Et donc, si vous voulez, oui, effectivement, ce type, c'est même pas pour lui, c'est même, il est dans son idéologie. Françoise s'étonne, elle trouve que c'est indécent, indécent, c'est d'avoir participé. Vous avez dit indécent
sur ce traitement, sur les reproches qu'il fait sur le traitement. Évidemment, pas sur
les reproches qu'il fait sur le traitement.
Elisabeth Lévy, Françoise de Goy, Tariq Yaldiz, oui. En fait, il est dans une défense et une stratégie de rupture.
Oui, clairement. Mais encore une fois, il y a en effet rien de nouveau. Ouais. En revanche, c'est vrai que dans le cadre d'un processus de radicalisation, il va s'adresser à des gens qui ont un fond culturel qui est à peu près similaire et qui peuvent avoir un peu de sympathie. Et dans ce contexte-là, ça peut favoriser ce processus-là. Pas le déclencher. Là, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on ne va pas... Voilà, quelqu'un qui est à peu près normal, entre guillemets, ne va pas se lancer là-dedans parce qu'il a écouté. En revanche, il va dégager une force et une puissance qui attire chez cette population-là. Ouais. Chez cette population qui potentiellement pourrait basculer.
Qui peuvent basculer, quoi. Exactement. En écoutant ce discours... Voilà. Et on le disait aussi parce qu'il y a ce qui se passe en fait en Afghanistan avec les talibans qui ont buté hors du territoire donc les Américains en se disant, vous voyez, on est plus fort. Quoi. On a la puissance, une certaine puissance divine, quoi, c'est ça.
Et il y a quelque chose qu'on a perdu de vue en France, c'est la puissance de l'idéologie. Ouais. La puissance des convictions idéologiques. On a eu ça à une époque avec le communisme, mais avec une culture en fait qui allait jusqu'à transcender l'individu, d'aller de réfléchir plus qu'à soi-même, à une cause qui nous dépasse. Alors là, évidemment, la cause, on la trouve tous dramatique, mais il y a cette puissance-là aussi qui attire beaucoup.
Moi, ouais,
c'est
pardon,
force
mais
et cette idéologie.
Comme moi, je parlais de l'indécence sur ces conditions de traitement. On se souvient que Carlos avait le terroriste Carlos, Garcin Charles, enfin avec un certain CV à son actif, avait fait ce reproche. Je trouve indécent.
La rue Marbeuf.
Barbeuf et la Garcin Charles. À Marseille. Ouais. Ce que je trouve indécent, c'est ce qui m'inquiète, c'est la façon, la stratégie qu'a décidé de suivre. Ce n'est pas une stratégie du silence, c'est une stratégie du bruit, de la conviction, du déclaratif, sur tout sujet. C'est ça qui me pose un problème.
Donc il n'a pas suivi la stratégie que vous vouliez qu'il suive.
Je vous dis juste que là, on est parti.
Françoise, Elisabeth et Tariq Yildiz, et pour les auditeurs, on va avoir un auditeur qui va réagir dans un instant. Il ne faut pas oublier, on l'a vu à travers un rapport qui a été publié il y a quelques temps aussi, que Salah Abdeslam, alors il dit on est traité comme des chiens en prison, mais lui-même en prison, Tariq Yildiz, il a fait du prosélytisme, quoi, comme le font aussi beaucoup d'islamistes. Quoi. Enfin,
évidemment, et par contre ce qui est très intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit « mais je ne me suis pas plaint, parce que lors de la résurrection, de toute façon, vous allez devoir me rendre des comptes ». Même en disant ça, il veut dire, bon, en fait, quoi que vous fassiez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la justice divine. Je me fiche complètement de ce que vous faites. Et je me place pas tellement comme une victime, en réalité, en disant ça.
D'accord. C'est-à-dire
que moi, en fait, au bout du compte, c'est moi qui vais vous demander des comptes.
Non, mais à vous deux, je vous pose la question, à nous tous, honnêtement. Si on continue sur ce rythme, le président de la Cour d'assises est étonné du bavardage et idéologique et meurtrier de Salah Abdeslam. Est-ce qu'on peut continuer tous les jours à avoir des déclarations ?
Je peux répondre à Françoise là-dessus. Non, mais Françoise, vous savez bien comment ça se passe. Ce procès va durer 9 mois. On va en parler tous les jours pendant une semaine et vous verrez que... Évidemment pas suivre ça à la une le matin, etc., pendant 9 mois. Par ailleurs, moi, je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent être rebutés. Enfin, je parle pas que des gens normaux, simplement, comme vous moi. C'est-à-dire que ce type, vous dites, il se victimise pas, mais ce type qui est il a là avec lui et puis il dit, je suis traité comme un chien, on a envie de lui dire, ma pauvre choute.
Si
vous voulez, c'est l'indécence dont je parlais.
Mais sauf qu'Elisabeth, il ne se plaint pas. C'est ce que disait bien Tariq Yildiz.
Moi, j'ai entendu qu'il se plaignait quand même.
Derrière, en fait,
il accuse le système, il accuse la démocratie. La phrase exacte, écoutez, franchement, c'est une, perle. La phrase exacte, c'est même si nous sommes des gens dangereux, nous devons être traités comme des êtres humains.
Et
nous sommes traités comme des chiens.
À propos des co-accusés, il disait ça lui-même. C'était
attention.
0826-300-300.
Et Renaud nous appelle de Rodez. Bonjour Renaud.
Bonjour Renaud.
Bonjour Cécile, Elisabeth, Françoise, Patrick, Tariq. Bonne rentrée à Sud Radio. Et avant de réagir, je dis, vous avez une équipe de rédaction et surtout une équipe au standard, notamment Aude, franchement, c'est des gens très accueillants.
Bravo. Vous avez raison, mais il faut les saluer, souvent, et c'est vrai. Et ils ont un rôle capital, essentiel, parce que ils sont le premier haut des toute l'équipe.
Première voix qu'on entend
de
la radio.
Oui, première voix, effectivement, avec vous, quand vous appelez au 0826-300-300, ou quand on vous rappelle, quoi, bien
formidable.
Sûr.
Formidable. Bravo.
Non, mais c'est sincère.
Oui.
Voilà. Alors, juste pour réagir par rapport à l'islam et à la question du jour, honnêtement, moi, je ne pense pas que le fait que les médias relaient les propos soit choquant. Les propos en eux-mêmes, oui, sont très choquants. Je suis désolé, je risque de choquer dans ce que je vais dire et faire du Zemmour de comptoir. Mais faut pas oublier, il y a 20 ans, en 2001, on a eu les attentats aux États-Unis, entre autres, avec, je vais pas tous les citer, mais enfin, vous savez qui, Mollah Omar, Ben Laden, etc. Où on a eu, il y avait pas autant, d'accord, de chaînes info, en tout cas, sur la TNT, etc. Mais Il y a eu à cette époque-là des flashs spéciaux en permanence toute la journée sur beaucoup de chaînes, hein, même à la radio.
Hein, oui, bien sûr.
Où ces propos, on entendait, on voyait les films de propagande de ces gens-là. Les propos étaient déjà relayés. Donc moi, je trouve que honnêtement, c'est pas choquant du tout. C'est du devoir d'information. Voilà, tout simplement. Alors certes. La période, c'est il y a 20 ans, c'est pas pareil, c'est pas le même contexte, etc. Je veux bien. Mais il y a un moment donné, on est en train d'arriver en France. Vous savez, on parle du puritanisme à l'américaine. Mmh. En France, on est en train de faire du puritanisme à la française. Le moindre truc, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, etc., la moindre parole qui est relayée, le moindre truc, c'est tout le monde s'offusque et se choque de tout. Il y a un moment donné, je veux bien que les gens se choquent, soient choqués, soient offusqués, tout ce que vous voulez, mais il y a un moment donné où on ne peut pas empêcher la presse. On se plaint que la presse nous cache, nous mente, certaines choses, etc. On ne peut pas empêcher à la presse de nous relayer ces informations-là. Mais au contraire, on les accuserait.
Restez avec nous. Attendez, Françoise de Bois, c'est pas vous qui menez les débats quand même. Un instant, Françoise, Elisabeth et Tariq Yildiz, vous allez réagir. Renaud, vous restez avec nous et vous continuez de réagir. Hein. 0826 300 300. Est-ce qu'on doit être choqué ou pas choqué, évidemment, tel que vous l'avez dit.
Vous allez, dans un instant. À 48%, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Allez, les débats continuent.
Dans un instant, la suite du débat, bien sûr.
Oui, et la France à vos côtés aussi, dans 10 minutes, Cécile, en fait, avec vous, chaque jour, donc évidemment, aux côtés en fait, de gens qui se battent, qui mènent des combats, que ce soit dans leur entreprise, dans des associations, des municipalités ou des professions. Et ce matin, la France à vos côtés, Cécile.
On va parler d'un fléau persistant, puisqu'on va revenir sur les suicides des policiers. Un quart des policiers aujourd'hui est confronté des pensées suicidaires selon une étude. Déjà pour l'année 2021, 23 policiers se sont donné la mort. On en déplore à peu près en moyenne 45 par an. Et en 2019, 59 se sont suicidés, ce qui est quand même une année assez record. Et on en parlera avec deux spécialistes. La responsable du plan mobilisation contre la lutte contre le suicide dans la police, c'est Christophe Girard, qui est une association qui s'appelle PEPS SOS Policiers en Détresse. Ce sont des policiers qui aident des policiers.
Voilà, nous en parlerons dans un quart d'heure, et là aussi vous pouvez réagir 0826 300 300. Alors il y avait Renaud qui est toujours en ligne avec nous, du côté de Rodez, je crois. Il y a d'autres appels, 0826 300 300. Donc Renaud qui nous disait en fait tout à l'heure que lui, il fallait pas être choqué, évidemment, et qu'il fallait en fait entendre aussi une forme de réalité et pas tomber dans un puritanisme. Alors Elisabeth et ensuite Françoise de Gouas et Tariq Yildiz.
La première chose, je pense que Renaud a raison, qu'on a beaucoup de mal à regarder cette idéologie en face, qu'on préfère en général se voiler la face en disant attention, il y a le gentil islam d'un côté et le méchant islamisme de l'autre, alors qu'en fait c'est très compliqué d'être, je dis pas tous les que c'est tous pareil, je dis que là il y a pas une frontière étanche, il y a une imprégnation islamiste chez beaucoup de jeunes et je pense qu'il faut le regarder en face. Mais moi Renaud a parlé du 11 septembre et je voulais simplement faire remarquer que les Américains n'ont pas jugé Ben Laden, que si nous sommes en guerre, et ben ces gens-là effectivement, il y en a on en a tué un certain nombre en Syrie.
Oui, la France.
Soit on fait un procès, on fait un vrai procès. Il a le droit, comme tout accusé, de s'exprimer. Et oui, s'il est assez normal que les médias le disent. Encore une fois, moi, je crois que c'est aussi dissuasif pour beaucoup de gens. Soit on fait pas de procès.
Ouais.
Mais
je suis pas d'accord avec vous, Elisabeth. Sur Ben Laden, c'est vrai que les Américains auraient eu l'opportunité de l'arrêter, ils l'ont éliminé, disons-le clairement.
Ils ont choisi
la stratégie d'élimination.
Et le Tchétchène qui a tué Paty a été tué. Et franchement, je pense que peu de gens ont pleuré sur le plan.
C'est difficile après, bien sûr. Et puis quand vous interpellez, vous menez des enquêtes et vous interpellez des gens, c'est pour les juger. Quoi,
je voulais juste. Voilà, on est quand même dans un état de droit. Je sais que ça fait bondir Elisabeth. Moi, je n'ai pas en question le fait que Abdeslam s'exprime. D'abord, je mets en question l'organisation de ce procès. Pardonnez-moi, Renaud, ce n'est pas... j'ai aucun reproche avec les journalistes, bien sûr qu'ils font leur travail. Mais ce n'est pas la presse qui a fait cette mise en scène-là. C'est la chancellerie, c'est le ministère de la Justice qui a décidé de faire... j'ai presque envie de dire, une forme d'opération de communication française, cocoricotesque. Écoutez, tous les grands magistrats se succèdent sur tous les plateaux depuis une semaine pour nous expliquer que c'est le procès du siècle historique. C'est pas, d'abord, le plus grand procès, c'est pas celui-là, c'est celui qui a eu lieu à Palerme avec le juge Falcone, un an et demi de procès avec 1400 accusés de la mafia. Ouais. Donc, je pense qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que moi je ressens un malaise, c'est que je pense qu'il y a derrière, il y a une opération qui va bien au-delà d'Abdeslam, qui est une opération, une forme d'opération de communication pour la justice française. Et c'est en cela que je me dis qu'on lui a peut-être servi sur un plateau, on l'a peut-être servi sur un plateau, un outil surdimensionné par rapport à ce qu'il est. Ça n'est qu'un sous-fifre, Abdeslam. Hein.
Allez, Renaud voulait réagir penseur. Avant Tariq Yaldi.
C'est un sous-fifre.
Oui, Renaud.
Oui, alors, elle n'a pas tout à fait fort, effectivement. C'est aussi un outil de communication par rapport à la justice et aussi par rapport aux prochaines élections qu'il va y avoir là dans quelques mois. Évidemment,
c'est ça qui me gêne.
C'est quand même voilà, c'est même s'il n'est pas historique, c'est quand même un procès important. Certes, Ben Laden, les Américains ont décidé de l'achever. Il n'y a pas eu de procès, d'accord. Mais pour moi, si vous voulez, c'est l'un et l'autre, en fait, pour moi, c'est la même chose. À partir du moment où sur les chaînes à l'époque, on a retransmis toutes ces vidéos de propagande de Ben Laden, Mollah Omar, etc. On leur a laissé une vitrine aussi de. Donc, en fait, la seule chose qui change aujourd'hui, en dehors entre guillemets cette intention malsaine pour la justice et ses prochaines élections. Le seul truc qui change, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de chaînes d'infos en libre accès, puisqu'avant, c'était tout sur le câble et tout. Ouais. Maintenant, on a plus de chaînes en libre accès et les réseaux sociaux, Internet,
bien
etc. C'est la seule chose qui change. Juste l'époque qui change. En dehors de ça, les personnes sont exactement de même profil. La société est plus ou moins la même. C'est pour ça que moi, honnêtement, je dis qu'il ne faut pas se choquer.
Les
médias, les propos sont choquants, clairement,
bien
évidemment.
Sûr, bien sûr.
Effectivement,
mais ça montre une certaine réalité, quoi, Renaud, hein, c'est ça aussi.
Mais bien sûr, effectivement, qu'il y a une certaine radicalisation d'une partie de la société, etc. Ouais. Mais moi, je ne pense pas que ce soit les médias qui en soient la cause.
Ouais. Merci, Renaud. Tariq Yeldiz, on va poursuivre justement avec vous, parce que vous êtes aussi spécialiste, en fait, de toutes ces questions autour du radicalisme islamiste. Salah Abdeslam a donc décidé, lui, de se présenter avec une barbe longue, hein, etc., qui dépasse en fait de son masque, alors que les autres co-accusés ont choisi une tenue beaucoup plus à l'occidentale, quoi. À quelle catégorie de population ils veulent en fait s'adresser, en tout cas pour Salah Abdeslam ?
Pour Salah Abdeslam, clairement, il est dans son processus jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que pour lui, c'est quelqu'un de convaincu et c'est quelqu'un qui a atteint un stade assez suprême, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que je trouve que ce procès, je ne vois pas qu'on aurait pu faire autrement de pas en parler.
Mmh.
Et pour lui en particulier, pour cette question, je trouve qu'il y a une dimension très instructive. C'est-à-dire que on voit que dans son parcours, c'était un petit délinquant au départ, pas beaucoup de confiance en lui. Il n'était pas entre deux cultures, il n'avait pas de culture.
Mmh.
Et puis à la place, il a adopté une nouvelle culture en réalité, une nouvelle idéologie. Il a remplacé le vide idéologique par quelque chose de très puissant, et c'est à travers ça, en fait, que là, il se sent légitime pour en parler, pour parler à ceux qui pensent pouvoir convaincre. Et c'est dans cette dimension-là qu'il s'inscrit. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est-à-dire que c'est des gens qui se revalorisent à travers cette idéologie. Il a confiance en lui par sa tenue, par ce qu'il dit, par son discours.
Ouais. Et peut-être revenir la particularité par rapport au procès de précédent, c'est-à-dire Merah ou de Charlie. Est-ce qu'il y a une particularité de celui-ci, selon vous, Tariq, ils disent
honnêtement,
en dehors de la masse, hein, bien
oui,
sûr.
Oui. Mais... Non, mais pour moi, honnêtement, on a systématiquement, en fait, les mêmes discours. C'est soit le silence quand on pose des questions très précises sur comment ça s'est passé. Je pense qu'on va avoir la même chose. Il va pas commencer à dire, je suis passé par là, j'ai déposé un tel, etc. Pas du tout. En revanche, quand il y a l'occasion de réaffirmer ce qu'on pense être la vérité, de dire que vous n'êtes pas légitime, qu'il y a que la justice divine qui est présente, là, on a les mêmes discours. En plus, on a les mêmes profils. Des gens qui étaient des anciens délinquants, qui ont traîné dans ce monde-là, qui se sont revalorisés à travers une idéologie et qui essaient d'en faire la publicité d'une manière ou d'une autre, mais en étant complètement convaincus. très profondément
Tariq,
convaincu.
Il y a une différence majeure, c'est que c'est le seul procès où il y a un protagoniste. Oui. Ça n'était pas le cas pour le procès Mera, ça n'était absolument pas le cas...
Direct, quoi, c'est ça, bien sûr. Oui.
C'est là que, la chose est historique d'une certaine
Alors
manière.
Alors qu'on était beaucoup plus sur des complicités, oui. des co-accusés. Mais, quoi.
Mera, Abdeslam, est un assassin, un véritable assassin. Il a participé directement à ces assassinats, c'est pas un logisticien, etc. C'est pour ça que, voilà, à manier avec précaution. On
Merci Françoise Degois, Elisabeth Lévy, et vous, Tariq Yildiz. Hein, je rappelle en fait votre livre, De la fatigue d'être soi au prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste.
Mais moi, j'adore ce livre, il faut le lire.
Aux éditions du Puy du Roule. Merci en tout cas d'être venu. On continuera quand même, quoi qu'il en soit, d'en parler évidemment de ce procès, de ces déclarations.
Peut-être pas tous les jours pendant 9 mois.
Peut-être pas, et sans doute pas, et probablement pas, et certainement pas, évidemment, tous les jours. Merci. Elisabeth Merci. Lévy. Dans un instant, la France à vos côtés. Oui. Écoutez bien. Écoutez bien, restez avec nous.
C'est un sujet important, le suicide des policiers. Vous voulez témoigner 0826 300 300, puisque si vous êtes un collègue ou si vous voulez soutenir la police et comprendre et expliquer, peut-être apporter des solutions, on en parlera avec deux experts, hein, Tiffaine Pinault, qui est responsable du plan mobilisation contre les suicides dans la police, et Christophe Girard, qui a monté avec d'autres policiers une association pour justement aider les policiers en détresse. Il est 9h41.